Voix Nue, Caroline Brouet,
Raphaël Pitti, médecin humanitaire.
Cinquième épisode, l'humanitaire, la politique et Dieu. Bonjour Raphaël Pitti.
Bonjour Caroline.
Nous avons parlé pendant le quatrième épisode de vos voyages en Syrie, dans l'enfer syrien, entre 2012 et 2022. L'une des conséquences de ce conflit syrien, ça a été l'afflux de migrants aux frontières européennes. En particulier, on s'en souvient, en 2015-2016, une situation qui a touché, dans un moindre niveau en tous les cas, en France, parce que ça a beaucoup touché l'Allemagne par exemple, mais l'Europe, et c'est une situation qui vous a beaucoup préoccupé. Dans le même temps, en 2014, vous êtes nommé conseiller municipal à Metz, en charge des situations sanitaires et sociales, en charge de l'humanitaire. Je suppose que vous avez eu à gérer donc une situation d'arrivée peut-être de migrants. Racontez-nous si vous vous souvenez de cette époque et dans quelle mesure effectivement ça a affecté cette fois votre vie en France.
La ville de Metz, au niveau du département de la Moselle, est le guichet unique d'enregistrement des demandeurs d'asile. Et il en arrivait à ce moment-là entre 5 000 et 7 000 par an, des demandeurs d'asile, essentiellement venant des Balkans, des pays de l'Est. Un moindre titre venant de Syrie ou d'Afghanistan, etc., comme c'est le cas maintenant. J'étais sensible à la cause des réfugiés pour l'avoir vécu enfant. J'étais sensible en même temps à la situation des Syriens et je voyais très bien leur vie, etc., de ce qu'il en était de la guerre. Et je comprenais en même temps qu'ils fuient, qu'ils aillent dans les autres pays, en Turquie en particulier. Au début, ils étaient 300 000 et ils sont montés jusqu'à 3 millions, 3 millions et demi. Et ils vivaient dans une situation de misère, de très grande précarité. Je voyais des enfants qui avaient perdu leurs parents, qui avaient perdu leur père. En tout cas, j'ai en mémoire cette histoire. Avec 6 enfants, la mère se retrouvait seule dans une cave. Et l'enfant travaillait 10 heures dans un restaurant à servir un enfant de 8 ans qui faisait vivre le reste de la famille, des restes qu'on lui donnait dans ce restaurant, etc. Je voyais cette misère-là. Et à un moment donné, le gouvernement turc, qui était débordé par le nombre de ces réfugiés qui étaient dans leur pays, qui vivaient là, a demandé de l'aide aux Occidentaux et ils ont tous tourné la tête ailleurs pour ne pas voir cette réalité dans laquelle s'enfonçait le Liban avec 20% de sa population étant des réfugiés, la Jordanie étant dans la même situation et la Turquie aussi. Et les Occidentaux pendant cette période, eh ben, ils regardaient ailleurs. Ça les arrangeait bien au fond que les Syriens restent là-bas jusqu'à ce que Erdogan décide d'ouvrir sa frontière et de dire « puisque c'est comme ça, je vous les envoie ». Et en 2015-2016, c'est la crise migratoire où vous avez plus de 1 million de réfugiés syriens en Turquie qui partent vers l'Europe. Je rappelle à tous vos auditeurs la situation qui leur était faite. Les frontières se sont fermées, les fils de fer barbelés, ils marchaient à pied pour essayer de passer, d'arriver en Europe, etc. Ils sont un peu plus d'un million à être arrivés en Europe. Bien évidemment, l'Europe se devait, puisqu'elle avait signé la convention d'accueil des réfugiés, alors elle se devait de les recevoir puisqu'ils fuyaient des zones de guerre. C'était une obligation internationale que de le faire. Mais l'Europe n'entendait pas du tout les prendre. Pas du tout. Et donc, de ce fait, il y avait été prévu un quota. Chaque pays devait prendre sa quote-part du nombre de réfugiés. Les Hongrois, les Polonais, les Hollandais, les Autrichiens ont dit non, on n'en veut pas, etc. C'est la théorie du grand remplacement, ils sont tous musulmans, on les rejette, etc. Personne ne voulait comprendre que c'était des réfugiés de guerre. Et dans ce cas-là, à un moment donné, bien évidemment, ils étaient très très nombreux. L'Europe était en train d'exploser puisqu'ils n'arrivaient plus à s'entendre du tout dans la répartition. Ils refusaient de le faire. La France avait dit « j'en prends 30 000 », ils étaient plus d'un million sur 2 ans. D'accord ? Et nous ne les avons pas pris, ces 30 000, tout en ayant dit que nous les prendrons. Et alors, il a fallu une femme aussi courageuse que Madame Merkel pour les prendre. Elle, les 800 000 qui restaient, elle les a pris. Et en même temps, elle a négocié avec la Commission européenne et avec la Turquie. La Turquie les garde, tous, les Syriens, les plus de 3 millions de Syriens, moyennant 6 milliards. Et nous avons donné 6 milliards à la Turquie pour qu'elle ferme sa frontière et pour qu'elle garde les 3 millions. Et elle, bien évidemment, pour sauver l'Europe, a pris les 800 000. Ça, c'était la réalité telle qu'elle est et qu'on a détournée en disant l'Allemagne, de toute façon, elle a besoin de main-d'œuvre, patati, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a sauvé l'Europe et avec un grand courage. Et les Allemands ont accepté de le faire et ils les ont pris. et ils les ont intégrés. Alors, bien évidemment, il y avait notre réalité à nous. Nous avions, nous, à Metz en particulier. Et qu'est-ce qui se passait? Ils étaient dans un parking, plus de 1000, vivant dans une promiscuité, dans une saleté innommable. Et quand j'ai été nommé délégué aux urgences sanitaires et sociales, bien évidemment, il était inacceptable. C'était une urgence sanitaire et sociale. Nous avions dans un parking plus de 1000 personnes entassées les unes à côté des autres, des femmes seules. Il y avait aussi des Noirs. C'était eux qui payaient. Les Africains payaient le prix le plus cher. Pourquoi? Parce que un certain nombre de communautés des Balkans, qui déjà ne s'entendaient pas entre elles, c'est-à-dire que ce soit les Kosovars, avec les Albanais, avec les Serbes, etc. La communauté la plus importante entre elles récupérait les clés des toilettes, récupérait les clés des douches, d'accord, parce qu'elle était la plus importante, et empêchait les autres de rentrer. De ce fait, ils déféquaient tout autour des toilettes, ils urinaient dans des bouteilles qu'ils jetaient, il n'y avait aucun ramassage des poubelles, il y avait des rats, ils étaient entassés les uns à côté des autres, bien évidemment les femmes étaient embêtées par les hommes seuls, et quand il y avait besoin de place parce que les passeurs en amenaient d'autres qui venaient des Balkans, la nuit, on brûlait les tentes des Africains pour les mettre en dehors du parking et les jeter. C'était ça la réalité. Et ça, la préfecture ne voulait pas le voir. Et quand je suis allé voir le préfet de l'époque, en lui disant que c'était inacceptable, cette situation était inacceptable, il m'a répondu, parce qu'il était d'origine maghrébine, mais moi aussi je suis né dans un camp de réfugiés. Moi aussi. Et je lui ai dit, bravo monsieur le préfet, bravo, ce qui prouve que notre pays a la capacité en même temps de permettre à des gens de sortir de cette situation-là. Mais pour l'instant, que faisons-nous pour ceux qui sont là? Donc j'ai obtenu de lui qu'au mois de décembre, il démantèle ce camp. C'est ce qu'il a fait. Mais l'année suivante, ça a recommencé. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, j'ai porté tous mes espoirs sur Emmanuel Macron. En 2017, j'ai porté mes espoirs sur Emmanuel Macron qui disait « La France prendra sa part dans l'honneur. » Et elle prendra sa part dans la prise en charge des réfugiés, dans l'honneur. Et la dignité. Or, c'est pas la réalité qui était celle que je voyais. Les gens n'étaient pas accueillis dans la dignité. Ils étaient dans la rue, on leur donnait pas d'eau, on leur donnait pas de toilettes, on leur donnait pas d'abri, on les laissait dans le froid, etc. Alors pourquoi on faisait ça? Dans le cadre d'une politique était de dire si vous les accueillez dignement, c'est un appel d'air et ils viendront de plus en plus dans notre pays. C'est inacceptable pour un pays comme le nôtre qui se veut avoir des valeurs humaines. Lorsque des hommes et des femmes sont chez vous, s'ils sont chez vous, alors vous devez les accueillir dignement. J'entends bien que notre pays ne peut pas recevoir toute la pauvreté du monde, tant que cette pauvreté du monde est à l'extérieur de la France. Mais dès lors qu'elle passe les frontières et qu'elle est chez nous, il nous appartient de les prendre et d'en assurer justement la prise en charge d'une manière qui soit digne. Encore aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons. Encore aujourd'hui, des femmes et des enfants sont dans la rue. Encore aujourd'hui, des femmes et des enfants qui sont dans des centres d'hébergement sont mis dans la rue tous les jours. C'est indigne de notre pays que ce comportement.
C'était face à ces conditions d'accueil des migrants que vous avez considérées comme indignes de la France, Raphaël Pitty, qu'en 2017, vous avez rendu votre promotion d'officier de la Légion d'honneur.
Oui, tout à fait, parce que le discours de Macron avant son élection ne correspondait plus à ce qu'il a fait après son élection. C'est son gouvernement qui a décrété, par exemple, le délit de solidarité. Qu'est-ce que c'est que le délit de solidarité? C'est que si un Français aide une personne en situation irrégulière, peut se voir condamné par la justice pour complicité avec les passeurs. Ça, c'est inacceptable. Si quelqu'un est en danger dans les montagnes, si quelqu'un est la nuit au bord de la route et qu'il ne sait pas où aller, si vous le prenez dans votre voiture, vous êtes arrêté par les gendarmes, vous pouvez être poursuivi pour délit de solidarité. Et heureusement que le Conseil constitutionnel a mis fin à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un délit de solidarité, mais c'est bien un geste de fraternité que nous avons et de solidarité que nous avons envers les autres. Cependant, en France, on peut être condamné pour un délit de solidarité si vous en faites une publicité. Si c'est altruiste et discret, non. Voilà ce qu'il en est de ça. C'est la réalité de ce pays aujourd'hui et je ne parle pas de tout le reste.
Raphaël Pitty, je faisais remonter votre sensibilité, votre préoccupation au sort des migrants, des réfugiés, à vos voyages en Syrie. Mais en fait, c'est faux. Non seulement vous parlez de votre enfance à vous, bien entendu, et on l'a compris en entendant ces émissions qui ont précédé celle-ci, mais aussi parce que vous avez fait deux voyages en 2009, en 2011, à Lampedusa, sur la petite île italienne qui accueillait, enfin recueillait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfugiés et qui a continué de le faire après ces années-là. Vous avez raconté que c'était un choc pour vous. Vous avez raconté que c'était autre chose que la guerre, que vous n'aviez jamais vu ça. C'est encore autre chose que de voir ces hommes et ces femmes échouer en mer.
Oui, c'était vraiment terrible. J'étais avec l'Ordre de Malte comme médecin. Et à ce moment-là, les Italiens, l'Europe même, avaient mis en place un dispositif pour porter secours aux migrants en mer, qui se trouvaient en mer. Et ça s'appelait Mare Nostrum, notre mer, Mare Nostrum. Et donc, nous étions positionnés sur les bateaux des gardes-côtes italiens. Et chaque fois qu'il y avait des appels de détresse en mer, nous allions vers eux, de jour comme de nuit, et moi, en tant que médecin, je faisais une évaluation de la situation sanitaire du bateau dans lequel ils étaient, pour être sûr qu'il n'y avait pas de risque de contagion, éventuellement, ou d'urgence, en tous les cas, qui nécessitait une prise en charge la plus rapide possible. Et je dis, c'était de jour comme de nuit, et c'était essentiellement des bateaux de détresse. Alors, c'était les bateaux qui n'avaient pas coulé, mais il y avait ceux qui coulaient. Et tous les matins à Lampedusa, qui est une ville balnéaire, une île magnifique, magnifique. Vraiment, on pourrait penser que l'on est dans le Pacifique, etc., tellement c'est beau. Sur la plage, tous les matins, il y avait des corps qui arrivaient et que les fonctionnaires de la municipalité se pressaient d'enlever avant que les touristes n'arrivent pour s'étaler sur ces plages-là. Tous les matins, il y en avait. Et donc, qui mouraient en mer et qui ont continué à mourir et qui continuent à mourir maintenant. Puisque Mare Nostrum, à un moment donné, on a considéré sur le plan européen que aller au secours des réfugiés qui étaient sur ces bateaux, c'était en fin de compte aider les passeurs et qu'il y avait une complicité. Donc Mare Nostrum a été abandonné et il n'est plus question maintenant pour les humanitaires d'aller porter secours aux réfugiés en situation de détresse. Et donc les bateaux continuent de couler maintenant et de plus en plus. Là aussi, c'est comment peut-on accepter ça? Où on se bat contre les passeurs? Et c'est les passeurs qu'il faut éliminer, mais on ne peut pas laisser mourir les gens sous prétexte que si vous leur portez secours, vous soutenez, vous êtes complice des passeurs. C'est cette manière de raisonner qui est insupportable. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait pour faire en sorte qu'ils ne partent pas? Nous avons donné de l'argent aux Libyens, à l'armée libyenne, à la marine libyenne, etc., pour empêcher le départ. Et personne ne veut voir ce qui se passe dans les prisons libyennes où les femmes sont violées tous les jours. Les femmes, les hommes aussi sont violés tous les jours là-bas. Ils sont torturés, etc. À chaque fois, nous regardons ailleurs. Nous nous disons porteurs de valeurs, que l'Europe est porteuse de valeurs judéo-chrétiennes. Elle voulait même l'inscrire dans sa constitution, d'accord, ces valeurs. Et en fin de compte, c'est pas du tout ce que nous faisons. Nous laissons des gens dans une situation de souffrance inacceptable, inacceptable.
Qu'est-ce qui a fait, Raphaël Pitti, que vous êtes passé du médecin humanitaire que vous avez été toute votre vie au politique? Parce que vous êtes conseiller municipal encore à Metz aujourd'hui, en 2023, c'est en charge des réfugiés et de l'intégration précisément. Est-ce que c'est parce que vous avez accompagné ou été accompagné pendant vos missions humanitaires d'un sentiment de manipulation, d'instrumentalisation, d'ailleurs aussi bien par certains médias que par les politiques, donc d'une désillusion que vous avez dit « il faut que j'aille plus loin encore, faire autrement, agir autrement » Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi comme un pas dans vos relations entre humanitaire et politique?
L'homme, essentiellement l'homme. C'est-à-dire que toute politique n'est bonne que si elle s'occupe de l'homme. Or, nous sommes dans un monde capitaliste, au même temps individualiste, d'accord, et qui a perdu le sens de l'amour, de l'empathie pour l'autre. Nous sommes dans cette situation-là. Nous regardons des gens couler en mer, par exemple. Nous laissons des populations innocentes se faire bombarder. Et nous regardons ailleurs pour ne pas justement mettre en péril notre propre vie, notre propre privilège, notre propre tranquillité. Nous regardons ailleurs. Et c'est clair qu'aujourd'hui, avec les médias, avec la rapidité de la communication, nous sommes informés de tout ce qui se passe dans le monde. Et tout ce qui se passe dans le monde, à un moment donné, finit forcément, bien évidemment, parce que en dehors des problématiques climatiques actuelles, des catastrophes, etc., vient se surajouter en même temps cette violence liée à la guerre, aux catastrophes humaines. Tout cela, à un moment donné, finit par vous submerger d'être dans un monde qui a perdu le sens de la joie, le sens du bonheur, le sens de la simplicité, etc. Je comprends tout cela, mais il nous appartient quand même de donner une réponse. Nous devons donner une réponse. Nous ne pouvons pas accepter ce monde. Il y a cette phrase d'Anna Arendt, si vous le permettez. Elle est importante parce qu'elle dit juste. Anna Arendt dit « La mort de l'empathie humaine est un des premiers et des plus révélateurs signes d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. » C'est ce qu'elle dit. Or, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de sombrer dans la barbarie. C'est-à-dire ce que nous voyons, par exemple, au Moyen-Orient, ou les massacres, justement, les massacres de Boucha à Kiev par l'armée russe, la manière dont on s'est comporté vis-à-vis des Syriens qui ont été martyrisés pendant 10 ans, regardant ailleurs, etc. Ce monde est devenu complètement fou. Ce monde est en train de verser vers la barbarie et la terre en même temps, parce que nous ne la respectons même pas, cette terre. Nous la surexploitons. Maintenant, elle aussi dit qu'elle en a marre. Et elle nous le fait sentir par les tremblements de terre, elle nous le fait sentir par les tornades, elle nous le fait sentir par les incendies, elle nous fait sentir par les sécheresses,
etc. Donc l'humanitaire ne suffit plus. Agir tel que vous l'avez fait toute votre vie, Raphaël Pitti, ne suffit plus.
Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a un cri d'alarme. Et tous ceux qui, comme moi, sont indignés par ce qui se passe dans le monde, ne peuvent pas rester muets. Il est important que nous nous mobilisons tous. C'est la seule façon. Que tous les hommes qui sont porteurs de bien, tous ceux qui sont porteurs d'amour, tous ceux qui ont envie d'un monde plus heureux, un monde plus de sobriété, etc., le disent et l'expriment. Et c'est vraiment très important. Je suis, moi, comme Simone Veil, la philosophe, bien entendu. Je pense véritablement que les partis ne sont plus qu'obsédés par leur survie propre et non pas du tout par le bien, justement, des populations. Et donc, il est important aujourd'hui que nous portions, nous, les populations, les peuples, que nous portions ce message qui est là. Nous voulons un autre monde. Nous voulons un monde où il est possible que nous tous, parce que nous n'avons qu'une seule terre, parce qu'il n'y a qu'un seul ciel, parce qu'il n'y a qu'une seule humanité malgré toutes nos différences, il est vraiment très très important que nous le fassions sentir, que nous voulons vivre tous ensemble et partager ce que la terre est capable de nous donner en la respectant.
Vous savez, Raphaël Pitti, vous portez un nom qui n'est pas anodin, même si votre nom s'écrit P-I-2-T-I. En travaillant avec vous, ces émissions, j'ai pensé assez rapidement à la Pitié grecque. Et dans les premiers vers de la tragédie d'Eschyle, les Euménides, la Pitié dit, je la cite, « J'invoque enfin et les eaux du Pleistos, et Poséidon puissant, et Zeus suprême, sans qui rien ne s'achève, avant de prendre place, prophétesse sur mon siège. Daigne ces eaux bénir, daigne ces dieux bénir, aujourd'hui plus encore que jamais, mon entrée au saint lieu. Si quelques pèlerins nous sont venus de Grèce, qu'ils s'approchent, ainsi qu'il est de règle, dans l'ordre indiqué par le sort, je prophétise, moi, dans celui que me dicte le dieu. » J'ai deux questions à ce propos, Raphaël Pitti. Un, est-ce que vous diriez que vous êtes une Pitti des temps modernes? Et deux, est Dieu dans tout ça?
Il a une place qui est vraiment très importante dans ma vie. J'ai parlé tout à fait au début de la solitude qui a été la mienne, mais souvent il y a une ambiguïté dans le terme de solitude, comme si c'était solitude-souffrance. En vérité, le terme de solitude rapporte essentiellement au fait de développer en soi une vie intérieure. Et d'une certaine manière, je crois que j'ai été béni. Pourquoi ? Parce que justement, on s'est peu occupé de moi dans ma famille quand j'étais enfant. Et donc, ma personnalité, ce vers quoi j'étais fait, vers quoi j'étais porté, a pu se développer sans être éduqué par l'extérieur, en quelque sorte, de ma famille, par l'environnement, etc. Et ça, c'est un travail souvent qui prend beaucoup de temps pour les autres, d'accord ? Quand on a une famille qui essaye de faire en sorte de se réaliser au travers de vous, et qu'on vous dit « tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire ceci, c'est celle métier que tu dois choisir, etc. » Moi, je n'ai pas eu ça. On m'a laissé tranquille. Et au fond, je me suis laissé porter parce que j'étais moi-même. Et d'une certaine manière, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai une vie intérieure qui est très, très importante, au sens où je pense avoir réussi à laisser émerger de moi tout ce pour quoi je suis fait. Alors, je ne sais pas comment exprimer ça, mais en fait, je pense que je suis moi-même, tel que je dois être. Voilà. Et donc, j'ai une vie intérieure. Dans cette vie intérieure qui est là, il y a quelque chose au fond de moi qui est une sorte de force, de lumière intérieure, mais de force, je dirais. Et cette force, je suis un peu comme Etil Soum, j'ose dire que cette force, c'est Dieu. Elle est là, et que cette force en moi, elle est une force d'amour qui se porte vers les autres, vers l'extérieur, vers l'humanité dans son ensemble, et je me sens porté vers un amour universel qui fait que quelqu'un qui est un handicapé, etc., je le vis comme étant un autre moi-même. Voilà. Et donc, ça fait écho au message du Christ. Quelles sont, au fond, les règles les plus importantes? Et le Christ dit, c'est d'aimer Dieu de toute sa force, de tout son amour, de tout son cœur, Dieu, d'accord? Et ensuite, eh ben, c'est d'aimer l'autre comme toi-même. L'autre, comme moi-même. Et vouloir pour l'autre exactement ce que je veux pour moi. Le Christ dit, il n'y a pas d'autre loi que celle-là. Et il n'y en a pas d'autre. Si vous aimez Dieu et si vous aimez les autres, vous n'avez pas besoin, d'accord, de dogmatisme, vous n'avez pas besoin de règles, vous n'avez pas besoin. Cela seul vous suffit. Cela seul vous engage. Et je dis bien vous engage. Parce que aimer l'autre en même temps et vouloir pour l'autre ce que vous voulez pour vous, c'est un engagement. Et être pour moi chrétien, c'est-à-dire suivre l'enseignement du Christ, qui est un enseignement libérateur, il n'y a pas de morale dans l'enseignement du Christ, il y a ce qui est juste et ce qui est faux. Je me bats donc pour la justice parce que les choses me semblent justes et que je veux qu'elles soient justes pour les autres comme pour moi-même. Le Christ nous amène à un engagement. Le christianisme, être catholique, cela veut dire universel, et je dis bien universel, c'est un amour universel qui fait de moi non pas une identité, mais qui suscite en moi un engagement. Je ne suis pas français, je ne suis pas médecin, ça c'est mon identité. Quand je dis que je suis chrétien, ça n'est pas une identité, c'est un engagement. C'est-à-dire, ça m'oblige à agir, ça m'oblige à être. Et il ne peut pas y avoir de chrétien qui ne soit pas engagé dans le collectif, qui ne soit pas engagé dans la vie publique, qui ne soit pas engagé. C'est une obligation même de sa foi, puisqu'il est nécessaire d'aimer les autres et donc de s'engager pour les autres.
Il y a cette figure divine qui vous meut, qui vous guide et qui vous a guidé tout au long de votre vie, Raphaël Pitti. Et il y a quelques figures terrestres qui ont beaucoup compté. Vous nous avez parlé dans une émission précédente de Sœur Marthe. Vous venez de citer le nom de Etil Soum. Est-ce que vous nous diriez quelques mots de Etil Soum? Qui était-elle?
Alors, c'était une jeune femme juive qui est morte en 1943 à Auschwitz, dont on a même perdu la trace à Auschwitz, et qui, de 1941 à 1943, écrit son journal. Etil Soum est une figure extrêmement moderne, je dirais même une femme de notre temps, très libérée sur le plan sexuel, etc. Très instable sur le plan psychologique, très instable, née dans une famille juive non pratiquante, mais pathologique, avec ses deux frères schizophrènes, la mère hystérique, etc., un père très intellectuel, mais en même temps peu présent, une personnalité un peu en retrait en tous les cas, introvertie, en retrait, etc. Etil s'est développée dans cette famille-là, qui était somme toute pathologique, elle en subissait en même temps une certaine souffrance, elle s'est retrouvée à Amsterdam pour poursuivre ses études, là, et Etil se met à écrire sous l'impulsion d'un homme, qui va être quelque part son mentor, d'une certaine manière, un homme un peu particulier, oui, je dirais un peu particulier, mais qui l'amène justement à ce travail intérieur. Et ce travail intérieur se concrétise en même temps dans l'écriture. Et donc, elle écrit son journal. Le fait d'écrire, c'est en même temps se poser. C'est-à-dire, on est bien dans une vie intérieure. Je pose mes actes de la journée, et en même temps, j'analyse mes actes de la journée. Et du même coup, je me libère. Puisque je porte une analyse, on est bien dans un travail intérieur qui va peu à peu l'amener à, c'est ce que je disais tout à l'heure, à découvrir qu'il y a en elle une part d'elle très profonde, d'accord, qui est faite d'amour, de lumière et d'amour, et qu'elle appelle elle aussi Dieu. Et elle voit un Dieu, non pas un Dieu de puissance comme le montre la Bible, un juge, un Dieu qui est au-dessus des hommes. Pas du tout. Pas du tout. Elle est ce Dieu de faiblesse. ce Dieu qui est là, ce Dieu qui attend, ce Dieu qui est amour en même temps. Et elle dit à un moment donné, ce n'est pas à toi de nous aider, mais c'est à nous de t'aider pour que tu sois là présent. Et on est pendant la guerre. Elle est à Westerbork. Elle est assistante sociale. Elle voit partir ses congénères-là dans les trains qui les amènent en Pologne pour aller à Auschwitz. Elle est avec eux. Elle les accompagne dans la souffrance, ses mères avec ses enfants, etc., ses malades. Elle vit cela intensément là. Et en fin de compte, elle laisse émerger cet amour-là profond. Elle découvre Dieu sans dogmatisme, au-delà de sa religion juive, au-delà de sa religion de chrétienne, au-delà des autres religions. Elle découvre qu'elle a en elle quelque chose qui est amour, qui est universel et qui est Dieu. Elle découvre Dieu, d'accord, par elle-même. Et à vraiment, à tous vos auditeurs, lisez son journal qui s'appelle « Une vie bouleversée » de Etty Hillsop.
Et vous, Raphaël Petit, vous avez écrit peut-être non pas votre journal, mais votre autobiographie. Vous avez choisi pour titre la devise du service de santé des armées « Va où l'humanité te porte ». Est-ce que vous diriez que vous êtes allé où l'humanité vous a porté ?
Oui, je pense que d'une certaine manière, je suis sur mon chemin, qui est là où l'humanité me porte. J'espère que j'aurai encore beaucoup de force pour continuer, parce que la période que nous vivons est une période extrêmement dangereuse. Je disais tout à l'heure, en citant Hannah Arendt, que malheureusement, nous allons plutôt vers la barbarie. Et il est important que tous ceux qui sont un peu porteurs d'une petite lumière, même d'une étincelle, soient là présents pour apporter de la lumière dans cette obscurité qui est en train de nous envahir.
Merci, Raphaël Petit.
Merci à vous, Curly.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Frédéric Kérou, réalisation Laure-Hélène Planchet, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.